Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Giard, le vice-président et membre du COMEX du groupe Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé.
Bonjour Alice.
Vaste sujet, je suis absolument ravie de te recevoir dans l'Empreinte, Mathieu.
Ben, je suis ravie d'être avec vous et de vous faire découvrir Air Liquide, le monde de l'hydrogène et tout ce qui va avec.
C'est bien, tu commences par le monde de l'hydrogène. C'est vaste. Est-ce que tu peux un peu nous préciser, à nos auditeurs en quoi consiste l'hydrogène? Alors, on va pas être dans Jamie, Fred et Jamie, faut pas qu'on rentre dans le truc trop chimique, mais concrètement, quel business d'Air Liquide?
Alors déjà, on va commencer par Air Liquide. Donc, Air Liquide, on est le numéro un mondial des gaz industriels et médicaux. Donc, on produit des gaz de l'air, essentiellement. Donc, on prend l'air qui est autour de nous et on le distille avec beaucoup d'électricité. Donc, on fait de l'oxygène, de l'azote, de l'argon et plein d'autres molécules qui servent dans la vie de tous les jours. Donc, vous ne connaissez pas, mais en fait, on est partout. Donc, on est dans le verre d'eau qu'on a en face de nous, le verre, il y a de l'oxygène dedans. On est dans ton smartphone où il y a des molécules d'hydrogène ou des molécules propriétaires liquides. On est dans la nourriture congelée, on est dans les bulles de ton soda. Voilà, donc en fait, on est un petit peu partout. Alors, il y a des applications plus connues que d'autres, l'oxygène médical, par exemple. Mais en fait, c'est ça notre métier. Donc, à travers ça, on livre des millions de clients. Donc, on a plus de 3 millions de patients et de clients à travers le monde. On est dans 80 pays, 67 000 employés. Et en fait, on est en prise avec la société parce qu'on livre des dizaines et dizaines de marchés dans des dizaines et dizaines de pays. Donc, on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le food, dans la pharma, dans l'aéronautique, dans l'énergie. Et avec ça, donc, on est en prise avec la société. Donc, on est en prise avec les grandes questions du moment, à commencer par la décarbonation. Et c'est là où l'hydrogène, notamment, prend toute sa place.
C'est là qu'on vous attend. D'ailleurs, dans mon teasing, j'avais dit 75 pays. Ça veut dire que vous êtes en hyper-croissance. Vous avez encore ouvert 5 nouveaux pays?
Alors, très actifs sur notre portfolio de pays. On est plutôt à 80, ouais. Si tu veux. Mais en fait, le vrai sujet, c'est qu'on est partout.
Ouais, c'est en fait, vous êtes,
Et on est partout depuis très, très longtemps. Donc, Air Liquide, c'est 1902. En fait, on a eu une croissance mondiale rapide pendant plein d'années. Et donc, tout ce qui se passe en Asie, on va le voir aux États-Unis, on va le voir dans les pays nordiques et en France. Donc, on a vraiment cette empreinte sur laquelle on fait effet de levier tous les jours. Parce qu'en fait, encore une fois, on voit ce qui se passe, on voit les tendances, on voit comment les sociétés locales trouvent des solutions ou pas. On voit les réglementations qui se mettre en place. Et donc ça, c'est super intéressant à titre personnel. Et puis pour notre société Air Liquide, en fait, on voit toutes ces tendances et on arrive à trouver des solutions, à les adapter.
Mais en fait, vous étiez presque, j'allais dire un sous-marin parce que vous étiez partout, mais c'est vrai que vous n'êtes pas une boîte dont on parle beaucoup. Mais par contre, aujourd'hui, maintenant, on parle presque plus que de vous avec l'hydrogène.
Tout à fait. Alors, Air Liquide, je pense que plein de gens connaissent, mais très peu de personnes savent ce qu'on fait.
Moi, je vous ai toujours connu de nom. Mais jamais j'aurais pu dire ce que vous faisiez, en fait.
Ah, et ça. Voilà. Et donc, sans doute, tes parents avaient une action de fonds de portefeuille Air Liquide.
Ne sais pas.
Donc, Air Liquide, on est là depuis, encore une fois, 1902. Par contre, le vrai sujet, c'est effectivement, depuis quelques années, la transition énergétique nous amène en première ligne. Parce qu'Air Liquide, on a des solutions pour décarboner. Alors, nos propres opérations, on va sans doute en reparler après.
Bien sûr.
Et puis, celles de nos clients. Alors, il y a l'hydrogène, mais il n'y a pas que ça. On sait aussi capter du CO2. On sait gérer des flux d'énergie. On sait améliorer des process industriels. Mais bon, le vrai sujet de ces dernières années, c'est l'hydrogène.
Oui, mais même la captation de CO2, là, on parle beaucoup, beaucoup de décarbonation. Le GIEC le dit d'ailleurs, ça ne va pas se passer sans décarboner. Donc, quand tu parles de captation de CO2, ça m'intéresse.
Ah bah, c'est un vrai sujet. Alors, on peut peut-être commencer par ça, si
carrément,
tu veux.
Carrément.
Donc, en fait, la captation de CO2, le meilleur CO2, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, c'est celui qui n'est pas émis. Bon, mais le fait est...
Ça y est, on se met en apnée.
Voilà.
Allons-y.
Le fait est, il y a beaucoup d'usines qui existent, il y a des solutions qui existent et tout ne va pas se passer du jour au lendemain, sans mentionner que certaines solutions industrielles, il y aura toujours du CO2 qui sera émis. Je pense par exemple au ciment. Ils pourront réduire 50% de leurs émissions, mais à la fin, dans leur process industriel, il restera du CO2. Donc, on ne pourra pas faire sans capture de CO2. Et surtout, si on veut aller vite... les 15, 20, 30, 50 prochaines années, et ça, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est ce que nous dit l'IEA, et ben, la capture du CO2 sera absolument clé. Donc, nous, on a des solutions Air Liquide. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on arrive, c'est un peu comme un ballon, si tu veux, que tu mets en sortie des usines et tu captures ce CO2 dans les fumées avant qu'il soit émis dans l'air.
Et tu le remets où?
Et nous, on le purifie et on le liquéfie. Et après, on a deux usages. Alors, il y a un tout petit usage qui est un petit peu anecdotique face aux enjeux qui sont en face de nous. C'est le CO2 qu'on utilise pour ton soda ou pour surgeler de l'alimentaire. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est des petites quantités. Et le vrai sujet, c'est sinon d'aller le transporter, d'aller le mettre dans des puits de pétrole qui sont vides et d'aller l'enfouir, notamment sous mer, de sceller ces puits et de le laisser là pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années.
Mais à un moment, alors j'ai plusieurs questions là, je trouve ça passionnant, mais déjà, est-ce que tout le process émet du CO2? Parce que tu sais, quand tu me parles de le transformer, souvent, il y a même dans le process même d'autres émissions supplémentaires, plus le transport, plus le machin, etc. Est-ce que, in fine, c'est pas dans la balance
Alors, c'est...
J'en sais rien.
C'est un des enjeux, ça. En fait, dès qu'on met en place une solution de nos jours, il faut regarder le cycle de vie complet. Donc forcément, il faut construire une unité de captage de CO2. Forcément, il faut liquéfier, ça prend de l'énergie, mais qui peut être renouvelable.
Ouais.
Il faut la transporter par un bateau, mais on parlera sans doute après des fuels maritimes qui pourraient être de l'hydrogène. Donc, on va quand même abattre ou réduire 80%,
en fait,
90% des quantités. Et puis, il restera une petite partie qui, au fur et à mesure des années et des solutions qui seront mises en place, va tendre vers zéro, puisque notre objectif à nous, il est d'être net zéro d'ici 2050. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on parle de quantités de CO2 qui sont absolument gigantesques. Donc là, on a été notamment aidé par la Commission européenne pour faire un gros projet à Anvers, où on va travailler avec le chimiste BASF. On va capturer 1,6 million de tonnes de CO2 par an. Donc, on parle de gros effets de taille, de gros enjeux. Et donc, tu as l'air très surprise, mais en fait, c'est ça qui compte. Donc, quand on regarde les ordres de grandeur... Donc, je te parlais des bulles dans ton soda.
Oui, là, c'est plus mon soda. Là tu fais tout Coca-Cola.
On parle de quelques milliers de tonnes. Bah, le marché du CO2 alimentaire en France, il est de quelques centaines de milliers de tonnes par an. Donc là, on parle de quasiment 2 millions de tonnes par an pour quelques industriels dans le bassin d'Anvers. Et nous, on a pour ambition de répliquer ça à Dunkerque, où on a déjà des projets, en Normandie, où on fait déjà, en fait, on capture déjà du CO2 sur nos propres unités et à d'autres endroits.
Donc, ça veut dire qu'en fait, l'entreprise qui voudrait capturer son CO2 pour être, je ne sais pas, neutre en carbone, comme tu pourrais faire appel à Air Liquide pour faire ça.
Tout à fait. Donc, on a déjà engagé des développements commerciaux et signé des contrats. Avec
on
notamment...
passe le message aussi, là, tu vois.
Alors, notamment les gros émetteurs, encore une fois, les cimentiers, les fabricants de verre, etc.
C'est ça.
Et donc, nous, on est capable de venir agréger ces volumes de CO2, de se mettre avec plusieurs autres entreprises dans un bassin, et puis donc d'agréger ce CO2, de le transporter, de l'emmener.
Incroyable.
Et donc ça, quand on revient au GIEC, ou on revient à l'Agence internationale de l'énergie, eh bien oui, c'est une solution qui est absolument indispensable parce que tout le reste va prendre du temps. Donc, on peut parler de l'hydrogène, on peut parler des sustainable aviation fuel dont
on
tu as parlé récemment dans ton podcast. On peut parler...
Tu es un fidèle auditeur.
Exactement, on peut parler d'énergie renouvelable, mais tout ça, eh bien, ça prend du temps.
Bien
et
sûr.
Alors que le CO2, on peut aller très très vite et avoir un impact qui est absolument phénoménal.
Et justement, l'hydrogène, vu que tu as écouté l'épisode, c'était avec Vincent Etchebert d'Air France. pour, d'ailleurs, pour l'aviation, c'est une des solutions. Mais comme tu me le disais, c'est pas, on n'a pas assez, enfin pas tout de suite. Parle-moi un peu d'hydrogène.
On va parler d'hydrogène. Donc l'hydrogène, ce qui est formidable, c'est que c'est la molécule la plus présente dans l'univers.
Donc, c'est cool. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, pour les éco-anxieux, on en a
de l'hydrogène. Le seul sujet, c'est que cet hydrogène, il se recombine toujours à quelque chose, notamment avec de l'oxygène pour faire de l'eau, H2O, avec du carbone pour faire des hydrocarbones. Donc, cet hydrogène existe, mais il faut le processer. Donc, aujourd'hui, il y a différents moyens de production d'hydrogène. Le premier, c'est la méthode un peu historique, c'est de prendre du gaz naturel et de la craquer à haute température. Donc, on fait passer du gaz naturel et on casse la molécule. Donc, ça fait de l'hydrogène en grosse quantité et de manière très économique. Par contre, ça libère du carbone. Et comme tu le sais, le carbone, il n'aime pas être tout seul. Donc, il se met avec de l'oxygène, de l'air et il émet du CO2. Donc, ça, c'est l'hydrogène un peu historique.
Alors, c'était le gris. D'ailleurs, maintenant, il a quelle couleur celui-là? C'est le gris?
Il est toujours gris. Il est toujours gris. On va reparler des couleurs, en fait.
Ouais, non, mais c'est bien de se le dire.
Donc, là, c'est le premier. Ensuite, il y a un deuxième mode de... sur lequel on va, qui est le, alors on va appelons bleu pour encore deux minutes. Ça, c'est le même, mais on va capturer le CO2 suivant le procédé dont on vient de parler. Donc là, on a un hydrogène qu'on va appeler bas carbone. Donc, il n'est pas renouvelable. Il est fait à base de gaz naturel, mais on a capturé le CO2 et on a enlevé 95, voire plus, % du CO2 à l'émission.
C'est un peu comme dans l'alimentaire, quand on dit c'est pas bio, mais c'est sans pesticides. Sans résidu de pesticides.
Non, mais c'est pour c'est une analogie. Voilà. Donc,
c'est un comparatif.
Donc, on est capable de le faire avec des usines existantes, assez rapidement, à un coût compétitif. Par contre, il faut capturer le CO2.
OK.
Et puis, le dernier qui est le Graal, celui dont on rêve tous, qui est le vert, qui est le renouvelable. Donc là, si tu te souviens de tes cours de chimie au collège...
Je faisais tout exploser en gros, tout de chimie. Et j'ai fait spé physique chimie, d'ailleurs.
Ah bah voilà, tu vois. Donc, prenais ton électricité, tu la mettais dans de l'eau et tu cassais la molécule d'eau pour avoir de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et tu comprends bien que si l'électricité est renouvelable, là, ton hydrogène est complètement renouvelable.
Ouais.
Donc ça, c'est un peu les modes de production. Donc on parle des couleurs, il y a l'arc-en-ciel de l'hydrogène.
Tu me disais avant, parce que d'ailleurs c'était des questions, tu sais, je pose en amont des questions à mes auditeurs, et la plus grosse question, c'était ces histoires de couleurs. Il y en avait qui me disaient, mais moi je crois qu'il y a du jaune, il y a du orange, ils ne comprenaient rien du tout, ils disaient, je crois que c'est le vert le mieux. Donc tu vois, je pense que c'est intéressant au moins de repréciser ça et de le rendre accessible à tout le monde.
Donc en fait, on a ces grands modes de production et derrière, on a mis des couleurs, les communicants ont mis des couleurs, si tu veux. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens. L'hydrogène, c'est un gaz incolore. Le vrai sujet, c'est de comprendre son contenu carbone.
Et puis, soit de le décarboner, comme tu l'as fait. Finalement, un gris décarboné n'a pas d'incidence.
Exactement. Donc, à l'usage, il a une empreinte CO2 qui est celle qui lui est propre. Et donc, il y a énormément d'enjeux en ce moment au niveau de l'Union européenne, au niveau du monde, pour certifier cet hydrogène, avoir tous les mêmes ordres de grandeur quand on parle de bas carbone, de quoi on parle. C'est le débat qu'il y a eu notamment avec est-ce que l'électricité nucléaire est intéressante pour faire de l'hydrogène ou pas. Un débat de société parmi d'autres. Et puis en plus, on voit que l'hydrogène, on pourra le transporter sur des grandes distances. Donc peut-être que demain, on aura de l'hydrogène qui va venir de Namibie ou du Maroc.
Mais avec un camion qui roulera
avec
l'hydrogène.
Un bateau. Alors, on l'espère tous, c'est un bateau ou un camion hydrogène. Mais donc la question, c'est quand on va nous dire cet hydrogène, il est bas carbone, est-ce qu'on peut le certifier? Est-ce qu'on est sûr de son contenu CO2?
Ah oui, donc il y aura des labels, il y aura des certifs,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement. Okay. Donc ça, c'est un peu les modes de production et les couleurs de l'hydrogène. Après, la première question, c'est pourquoi l'hydrogène? Donc, on pense que l'hydrogène, c'est un peu le couteau suisse de la transition énergétique. Il va servir à plein de choses. Donc, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fera partie de la solution. Donc, pour te donner des grands ordres de grandeur, on pense que d'ici 2050, il y a 20% du mix énergétique mondial qui pourra être à base d'hydrogène.
Parce que même... Je crois que c'est même ce que préconise le GIEC.
Le GIEC, l'Agence internationale de
l'énergie
et d'autres.
C'est l'agence qui
En fait, c'est des projections, si tu veux.
Ouais.
Et donc, c'est 20% de l'hydrogène ou ses dérivés qui peuvent faire partie de la solution. Et ça, c'est un marché de l'ordre qui fait 2500 milliards de dollars. Donc, c'est absolument énorme. Donc, si tu veux, il y a un gâteau qui est énorme et avec plein de sociétés, avec plein d'États qui commencent à se positionner. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on ne compte plus les pays qui ont des plans hydrogène. La France en a un, l'Europe en a un.
Mais tant mieux.
Et tant mieux.
Il
y a beaucoup d'argent
ça.
Public qui est mis sur la table pour nous aider à accélérer, à aller plus vite et à mettre en place des solutions qui sont plus ou moins matures, mais encore une fois, à l'échelle et très rapidement.
Mais pourquoi c'est aussi demandé, tu me dis qu'il y en a partout, Et pourquoi est-ce que, par exemple, Vincent, pour reprendre Vincent d'Air France, me dit « mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de matière ».
Je te propose de regarder comment les usages de l'hydrogène. Ouais. Il y a trois grosses familles. Donc, le premier, ça va être l'hydrogène qui va remplacer le gaz naturel. Pour faire simple, donc, l'hydrogène dit énergie. Parce qu'en fait, l'hydrogène, c'est une toute petite molécule, mais qui a trois fois plus d'énergie qu'un kilo d'hydrogène a trois fois plus d'énergie qu'un kilo de fioul, par exemple.
Okay.
Donc, cette petite molécule, elle a plein d'énergie. Alors, elle a un petit problème, c'est qu'elle est très légère. Elle est 14 fois plus légère que l'air. Donc, il faut la compresser ou la liquéfier pour la mettre dans des plus petits volumes. Donc, cet hydrogène, on pourra remplacer demain du gaz naturel parce qu'on va libérer l'énergie qui est dedans. Donc, ça, c'est le premier usage. La deuxième famille d'usages, c'est l'hydrogène qu'on va utiliser dans l'industrie. Donc, on s'en sert déjà aujourd'hui pour désulfuriser les fioul, dans des processus de type métallurgie, traitement de surface, etc. Donc, ou dans l'acier demain pour remplacer le coke. Et le troisième, ça va être l'hydrogène pour le transport, la mobilité lourde. Essentiellement, donc les camions, les bus, les trains et puis peut-être les avions. Donc, il y a trois grandes familles d'usages et encore une fois, on voit bien que si l'électricité renouvelable demain est la solution à plein de choses, l'électricité renouvelable, elle a un problème, c'est qu'elle est intermittente. Donc, il y a du vent et tout le monde produit de l'énergie en même temps. Il y a du soleil.
Les conditions climatiques sont foireuses, on n'a plus de... Oui, je suis très...
Et de tout un coup, ben, en fait, tout s'arrête parce qu'il y a un nuage qui passe devant le soleil et là, on produit moins. Et donc là, en fait, on voit bien qu'on pourrait produire beaucoup d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau quand il y a plein d'énergie qui est disponible. Et puis, on pourra la relâcher quand on en a besoin. Et donc, c'est en ça que l'hydrogène est absolument indispensable dans les solutions.
Carrément.
Qu'on regarde pour 2050.
On parle de mix énergétique et c'est pour ça que c'est un mix avec du renouvelable, de l'hydrogène,
de l'ammoniaque,
du solaire,
des fioules, etc. Et donc, tu me posais la question des fioules de synthèse. Donc, en fait, aujourd'hui, on produit déjà quand même beaucoup d'hydrogène, mais alors, malheureusement, il est fait à base de carbone, mais il y a plus de 100 millions de tonnes d'hydrogène qui est déjà produit dans le monde aujourd'hui. Donc, on a un premier enjeu, c'est de prendre cet hydrogène et de le passer bas carbone ou renouvelable. Donc, déjà, en s'attaquant à ce premier problème, il y a les utilisateurs existants qui vont se décarboner. Et puis, dans un deuxième temps, on veut construire à l'échelle des gros électrolyseurs qui vont nous permettre d'avoir accès à des grosses quantités d'hydrogène.
Donc là, aujourd'hui, en l'état, si par exemple Air France, pour lister, vous demandez, voilà, on veut décarboner l'aviation. Bon, apparemment, pour hydrogène, ce serait plutôt court et moyen courrier, pas les longs courriers, ce ne serait pas trop possible. Ce serait un mix, encore une fois, pour eux. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui fournir. Il faudrait d'abord décarboner l'hydrogène existant et ensuite leur filer... Okay.
Alors, l'hydrogène, pour l'aviation, en fait, il y a deux histoires. Le premier, c'est d'utiliser l'hydrogène en tant que tel,
okay,
comme fioul. Donc, pour ça, on le liquéfie à très, très basse température, on le met directement dans l'avion. Donc, ça, c'est la solution mentionnée par Air France, ouais, ou EasyJet ou d'autres.
Mais ça serait plutôt pour
des moyens courriers.
Ouais, moyen.
Et puis, c'est une solution moyen terme. Alors,
okay,
elle est formidable, parce qu'encore une fois, elle est renouvelable. Et puis, l'hydrogène, on sait le faire, il faut juste passer à l'échelle. La question est dans le juste, parce que pour faire ça, il faut accéder à du renouvelable en grosse quantité, il faut changer les capacités de production, et puis il faut changer les avions.
Et est-ce que vous dépendez du renouvelable aussi, finalement?
On
en avait parlé, on avait tous les deux été en... Et c'était un des sujets, en fait. C'est votre sujet, vous, le renouvelable?
Notre sujet numéro un, ouais, aujourd'hui, notre enjeu numéro un, c'est d'avoir accès à des grosses quantités d'énergie renouvelable à un prix compétitif.
Bon, on fait un appel, là, du coup, en même temps, dans le podcast. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important.
Mais c'est important, du coup, que les énergéticiens prennent vraiment conscience de ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de solaire, on a besoin d'éolien. Et si ça ne se fait pas en France, ça va se faire à l'étranger, dans des pays qui ont du solaire ou du vent. Et puis, on va transporter cette électricité sous forme d'hydrogène. Parce qu'on l'aura fait, par exemple, en Namibie, en Australie, au Brésil.
Ouais, mais vu la météo en ce moment, tu vois, cet été, je peux te dire que tu avais du soleil, là, tu as du vent maintenant, et des grêles, même, si tu veux un peu de grêles. Enfin, tu vois, ça va maintenant avec le dérèglement. Je pense qu'on a suffisamment de quoi faire en France.
Et en fait, on est au cœur d'enjeux qui sont compliqués. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis avec toi aujourd'hui.
Bien
sûr. Pour expliquer à tous tes auditeurs ces enjeux énergie.
Oui, et puis c'est pour ça, quand il y en a qui râlent pour mettre des éoliennes, etc., en fait, là, ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, en fait. Il faut créer du renouvelable, il faut mettre des panneaux solaires, il faut mettre des...
Ce qui nous paraît important, nous, c'est effectivement l'électrification, quelque part, c'est la voie la plus rapide. Donc, tout ce qu'on peut électrifier, il faut l'électrifier.
Et tenter de recycler ce qui est recyclable.
Voilà, et donc il y a des détracteurs de l'hydrogène qui vont dire « oui, mais l'hydrogène, c'est complètement idiot parce que les rendements énergétiques pour faire de l'hydrogène ne sont pas bons.
Donc, et mais ces détracteurs-là, ils sont pro quoi ? Pro-nucléaire, pro...
Bah, ils sont pro ce qu'ils ont à défendre, si
d'accord,
tu veux.
Okay. Mais parce que c'est de comprendre. Souvent, on les partis pris. Parfois, il y a des trucs...
Mais parce que tu comprends bien, Alice, c'est-à-dire que pour faire de l'hydrogène renouvelable, tu prends de l'énergie renouvelable que tu utilises pour faire passer un électrolyseur, pour faire de l'hydrogène, que après tu vas retransformer
en fait,
l'hydrogène.
Oui, donc ils disent, bah, autant prendre juste du renouvelable et puis basta cosy, quoi.
Et en fait, ils ont raison. Donc, si on peut utiliser l'électricité en tant que telle, allons-y. Le problème de ça, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est que
c'est
l'électricité ne va
monde.
Pas pouvoir tout résoudre. Je prends par exemple un verrier qui doit changer son four à verre. L'électricité va l'amener à 700 ou 800 degrés. Mais s'ils veulent à 1300, 1400 degrés, qui est nécessaire pour faire fondre le verre, l'électricité ne va pas l'aider en entier. Donc, en fait, il faudra qu'ils mettent un petit peu d'hydrogène pour défossiliser son
mix. Mais même pour
mix.
Les bateaux et pour les avions.
Et c'est pareil pour les bateaux, c'est pareil pour les avions. Donc, en fait, nous, on ne dit pas que l'hydrogène est la solution à tout. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans hydrogène, parce que ça fera partie de la solution.
Non, c'est hyper clair. Ah ben, j'ai tout compris. Enfin, franchement, alors, et pourtant, c'est un sujet qui me passionne depuis, parce que pour moi, c'est une solution et... Bah aussi, je m'aligne à ce que préconise le GIEC, donc forcément, j'ai essayé de comprendre. Mais je pense que, d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des retours de mes auditeurs, mais je pense que c'est hyper clair, en tout cas.
Alors maintenant, si tu as tout compris, on va aller un cran plus
loin.
Ouais,
allons-y.
Donc, première étape, on fait de l'électricité renouvelable en masse, et puis on électrifie tout ce qu'on peut, et on utilise une partie de cette énergie renouvelable pour faire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, donc, il permet de stocker de l'énergie et de la relâcher. Il permet de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène et de la transporter d'un point A à un point B. Donc, encore une fois, si on prend le Chili, par exemple, qui est un pays qui est en train de se positionner comme étant exporteur d'hydrogène, bah demain, eux, ils ont plein de vent. Ils pourront faire de l'électricité pas chère et donc de l'hydrogène pas cher et puis l'amener, par exemple, aux États-Unis. Donc, ça, c'est un...
Et puis, ça pourrait même renforcer économiquement plein de pays, en vrai. Hein.
Ah bah, en fait,
tu vois, des pays émergents qui ont plein de soleil et tout, qui peuvent se mettre à faire des trucs...
En fait, on voit sur la carte trois types de pays. En fait, il y a les pays qui vont être importateurs parce qu'ils n'ont pas de place.
Ouais.
Et pour faire du renouvelable, il faut de la place. Ou ils ont fait des choix énergétiques un peu forts. Donc là, je pense par exemple au Japon, à la Corée, à l'Allemagne.
Oui.
Ils sont importateurs d'énergie. Donc demain, ils vont arrêter d'importer du gaz russe ou du LNG et puis ils vont faire de l'hydrogène. Donc ça, c'est le premier groupe de pays. Le deuxième groupe de pays, c'est des nouveaux pays émergents parce qu'en fait, ils ont beaucoup de vent, ils ont du soleil. Et en fait, ils se disent, bah, avec ça, on pourrait faire de l'hydrogène ou ses dérivés. Donc là, je pense par exemple au Chili, à la Namibie, à l'Australie. Donc c'est des pays qui essayent de se positionner sur ces nouveaux mix. Et les troisièmes, en fait, c'est des producteurs actuels qui se disent, bah, en fait, aujourd'hui, on vend du pétrole. Demain, il faudrait peut-être qu'on le remplace par autre
chose. Tout de suite, d'ailleurs, s'ils pourraient.
Le plus vite possible.
Hein,
et typiquement, des pays comme l'Arabie Saoudite... a énormément de soleil, ils ont des capacités de production assez importantes.
De pétrole également.
Ils sont en train de regarder comment passer, alors pas demain, mais après-demain, du pétrole à l'hydrogène ou ses dérivés. Donc en fait, l'hydrogène, c'est un sujet aussi géopolitique.
Ouais, mais c'est un sujet qui pourrait, tu vois, tu me parles de... Bon, même si on voit qu'il y a toujours plus de puits de carbone qui s'ouvrent, et j'arrive pas à comprendre. Mais tu vois, si tu peux rendre ça compétitif et attractif aussi, ça permet pour des gens qui raisonnent pas spécialement renouvelable, mais plutôt business, ça peut être aussi intéressant. Tu vas te dire, bah ouais, mais finalement, avec de l'hydrogène, je gagne autant quand on ouvre un puits de carbone, même voire plus, un puits de pétrole, bah autant me mettre à l'hydrogène. C'est bête, hein, tu vois,
mais
comme raisonnement.
Mais en fait, on est prêt. Alors, c'est vraiment ça le sujet. C'est un des messages un peu forts qu'on essaie de porter. C'est les technologies sont prêtes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque?
La place.
Alors, un peu de place pour les renouvelables. Il nous manque des réglementations. Donc, en fait, on a parlé des certifications d'hydrogène, de CO2.
Donc, ce serait quoi? Ce serait des labels qui viendraient.
Des labels. On a besoin de clarifier. Il y a eu le Green Deal européen avec plein de textes de loi qui doivent passer, donc, qui, en fait, ont des impacts sur la manière dont on produit, dont on transporte, dont on exporte, etc. Et puis, on a besoin un tout petit peu aussi de financement parce que les technologies sont prêtes, mais on parle de gros projets.
Mais donc, c'est quoi? Ce serait des clients ou des états, le financement? Est-ce que
carrément,
c'est
les deux. Alors, les États aident. Hein, le plan, typiquement, le plan français est assez ambitieux. On parle de 9 milliards dans quelques années. Mais en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles sont prêtes à bouger. Je vais prendre Air Liquide. On a un plan hydrogène de 8 milliards d'euros d'ici 2035. Donc, si tu veux, nous, société privée, on va investir autant que l'État français dans la solution hydrogène. Donc, les entreprises ont envie de bouger. Moi, je vois nos clients et on a une proximité assez proche. On en a parlé, on est dans plein de pays, dans plein de marchés. Ils veulent chercher des solutions. Donc, on a énormément de discussions. Et alors, depuis 2-3 ans, c'est au niveau des PDG, c'est au niveau des comités exécutifs. Et on est vraiment dans la recherche de solutions, mettre en place des projets. Et il y a un vrai sujet de partenariat, de travail ensemble et de faire du business quelque part. Mais c'est un bon business. C'est un business qui va nous permettre de décarboner Et ça amène aussi plein de sens pour nous, nos équipes, nos employés, parce que c'est quand même super chouette de se lever le matin et venir travailler chez Air Liquide et dire qu'on décarbonise la planète. Et puis pour nos clients, parce que pareil, eux, ça les aide à offrir des produits décarbonés. On est vraiment dans une bulle en ce moment qui est super excitante.
Ouais, c'est génial. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu sois dans l'empreinte. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose ?
Alors, nous, on a un de nos enjeux qui est de faire connaître la solution d'hydrogène au grand public. C'est des sujets compliqués. C'est un sujet qu'on doit donner au grand public. On doit leur donner des clés de lecture sur ce qui se passe dans le monde de l'énergie, les solutions, etc. Et donc, on essaye vraiment de faire l'effort de venir vers eux. Donc, en fait, je donne rendez-vous à tes auditeurs pour deux événements. Le premier, c'est le 28 septembre. On a un événement qu'on a appelé Génération Hydrogène. Et c'est la génération d'hydrogène, c'est la génération des jeunes d'aujourd'hui qui cherchent des solutions pour décarboner la planète en ce moment, chercher du sens, des valeurs. Et donc, on a un plateau avec plein d'intervenants. On aura Mike Horn, on aura des influenceurs, on aura des industriels, on aura des gens de la société civile, des experts du GIEC. Et on va essayer de parler d'hydrogène, de parler des problèmes, des solutions, etc. Et pour illustrer tout ça, il y a la Nuit Blanche, le 1er octobre. Comme tu sais, c'est un événement culturel grand public. Il y aura une centaine de navettes à hydrogène qui vont te permettre de manière gratuite de te déplacer d'un point à l'autre de Paris, la capitale, pendant la Nuit Blanche, le 1er octobre. Donc rendez-vous le 28 septembre, Génération Hydrogène, et rendez-vous le 1er octobre pour la Nuit Blanche.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci Alice, très bientôt.
À très vite, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.